Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 2 octobre, tempête sur la France. Le vent a soufflé en rafale jusqu'à 186 km/h à Belle-Île. 100 000 foyers sont privés d'électricité en Bretagne. Les Alpes-Maritimes sont classées rouges depuis midi. En alerte maximale inondation avec des orages. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Alors où en est la tempête en ce moment?
Alors ça souffle beaucoup moins fort, même si on a encore de fortes rafales de vent jusqu'à 110 km/h sur la pointe bretonne avec beaucoup de pluie. Les Côtes d'Armor et le Finistère sont en vigilance orange, pluie, inondation, avec une vigilance pour vent fort en plus sur le Finistère. Et puis le gros de la dépression est sur la moitié est du pays, avec beaucoup de pluie, des orages, surtout dans le sud-est. On a 11 départements entre la Côte d'Or et le Var qui sont en vigilance orange, pluie, inondation. Certains cumulent la vigilance orange, orage et vague submersion. Donc vraiment, soyez extrêmement vigilants.
Il y a un islamisme radical qui constitue à nier les lois de la République. Emmanuel Macron prononce en ce moment son discours attendu sur le séparatisme. Il souhaite limiter le plus possible l'instruction à la maison pour les enfants et veut mettre fin à la formation des imams à l'étranger. Donald Trump en quarantaine à la Maison-Blanche. Le président américain et son épouse sont positifs au Covid. Il devra poursuivre sa campagne à distance durant quelques jours. Nous verrons ce que ça peut changer à un mois presque jour pour jour de l'élection présidentielle. Un concert de casseroles. Les restaurateurs protestent contre le risque d'une fermeture si l'épidémie continue de progresser. À Paris, ce sont les gérants des salles de sport en sursis sur le point de passer en rouge écarlate. La question du jour, la politique d'intégration est-elle un échec? Vous dites oui à 92% et à 3% de non. On attend vos appels au 32-10. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle, comment lutter contre le séparatisme? Quel avenir pour les territoires oubliés de la République? La France doit s'attaquer au séparatisme, a dit Emmanuel Macron. Vous allez en parler longuement. Nous aussi, on en parlera, notamment entre 14h et 14h30 avec François Pupponi, qui est député du Val-d'Oise et ancien maire de Sarcelles. Autre sujet, il faut limiter le nombre de gens qu'on côtoie, notamment la famille, les amis. C'est la recommandation aujourd'hui du Conseil scientifique. Est-ce que vous allez la suivre ?
RTL Midi.
La tempête Alex dans le nord-ouest provoque un épisode méditerranéen dans le sud-est. Le département des Alpes-Maritimes est classé rouge depuis midi en pluie inondation. Les établissements scolaires avaient été fermés de manière préventive. Hugo Hamelin, vous êtes à Nice sur la promenade des Anglais qui a des allures de Bretagne. Ah, on entend bien les vagues derrière vous, mais en revanche, vous, on ne vous entend pas, Hugo. Est-ce que vous pouvez rétablir la liaison correctement?
Oui, Christelle, je suis là. Je suis bien sur la promenade des Anglais. Une vague scélérate ne m'a pas encore emporté. Je vous le disais, d'importantes vagues, donc des creux de 3 mètres, des palmiers qui ploient sous les rafales. La promenade des Anglais est interdite aux piétons depuis ce matin, mais ça n'a pas empêché Michel de venir admirer le spectacle.
Moi, ça fait 3 ans que je suis à Nice. Je connais très bien la Bretagne pour y avoir beaucoup navigué. Je me crois sur Belle-Île, sur Watt, sur Édic. Aujourd'hui, c'est la tempête. Ils ont enlevé leur restaurant hier. Ils ont bien fait parce que c'était limite. Hein.
Les restaurants sur la plage?
Ouais, les restaurants, ils ont pratiquement tous été enlevés. Et c'est plus la mer, c'est l'océan. Là. Aujourd'hui, c'est l'océan.
Les crèches, les écoles, les facultés sont fermées à Nice aujourd'hui. Le trafic SNCF est également stoppé à Toulon, au niveau des TGV tout comme des TER. Mais les Niçois prennent cette tempête avec philosophie tout de même.
Ben écoutez, on le sait que ça arrive quelquefois, deux fois par an, en octobre et novembre et au mois de février aussi, souvent. Donc voilà, on sait que c'est deux fois.
Les feuilles des palmiers sont bien couchées, les vagues commencent à monter sur la prom, donc c'est un peu déchaîné.
Les fortes pluies sont attendues à partir de cet après-midi. Les cours d'eau seront particulièrement scrutés, notamment dans la vallée de la Roya, au nord-est des Alpes-Maritimes.
Merci Hugo. Et une partie des écoles sont désormais fermées aussi dans le Var. C'est ce qu'annonce la préfecture. En Bretagne, la tempête est passée par ici. Elle repassera par là. On a relevé une rafale à 157 km/h à Groix, 142 à Granville. La première tempête de la saison est violente. Heureusement, hormis la toiture d'un collège qui s'est envolée à Vannes dans le Morbihan, il y a peu de dégâts. Nicolas Bobby, vous êtes à Saint-Pierre-Quiberon, où on compte surtout des arbres arrachés.
Oui, malheureusement, près de 200 arbres n'ont pas survécu à cette terrible tempête Alex, comme celui qui se trouvait dans la propriété de Patrice à Saint-Pierre-Quiberon et qui s'est écrasé en partie sur la chaussée.
Nous, on était couchés à l'abri et on a entendu un gros craquement. Au début, on a pensé que c'était le Saint-Laurent de Gernin qui s'était envolé parce qu'on avait oublié de le ranger. On a distingué la souche de l'arbre là, qui était cassée en deux. Alors, on n'a pas osé sortir par mesure de sécurité. On a préféré attendre la levée du jour pour venir voir, quoi. Et puis ce matin, découverte d'un arbre de 40 ans, couché, plié en deux.
Des militaires de la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou ont découpé les grosses branches. Toute la nuit, les pompiers de la presqu'île de Quiberon étaient sur le terrain. Le lieutenant Gilles Guenet, chef de corps.
Des chutes d'arbres, des ruptures de câbles électriques, des morceaux de toiture, des têtes de cheminée, voilà, qui, sous l'effet du vent, se sont donc envolées ou ont été partiellement détruites.
Ce midi, 45 000 usagers sont privés d'électricité dans le Morbihan. Des coupures de lignes souvent dues à la chute des arbres.
Un reportage Nicolas Bobby. On fait un point général avec vous, Julien Fautra. Il y a 100 000 foyers en tout qui sont privés d'électricité dans l'Ouest.
Oui, dont 87 000 en Bretagne, mais aussi 3 000 en Loire-Atlantique ou 5 000 dans la Manche. Ça a soufflé à 147 km/h, par exemple à Barfleur. Des fils électriques arrachés, des arbres tombés sur les voies de chemin de fer, notamment dans les Pays de Loire. La SNCF y envoie des véhicules de reconnaissance. En attendant, beaucoup de trains annulés, notamment entre Savenay et Saint-Nazaire, au départ et à l'arrivée de Nantes, Nantes-Angers par exemple, et puis des dégâts constatés au Croisic. Idem sur les lignes normandes, qu'en Cherbourg et en Bretagne, par pas de train entre Rennes et Saint-Malo, entre Rennes et Quimper, entre Quimper et Landerneau, et cela jusqu'à 16h. Un bus scolaire a heurté un arbre tombé sur une route en Ille-et-Vilaine, près de Fougères, sans faire de blessés. C'est en Bretagne, aussi dans le Morbihan particulièrement, qu'on recense le plus de casses. 5 camping évacué. Les pompiers du département ont réalisé 250 interventions et de manière préventive, les écoles et les crèches ont été fermées aujourd'hui dans le département.
Merci Julien pour ce point complet. Emmanuel Macron a nommé les choses pour mieux les combattre. Il prononce en ce moment son grand discours sur le séparatisme au Mureaux, dans les Yvelines, et il a reconnu qu'une certaine forme d'islamisme constitue un danger.
Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. Je ne veux qu'il n'y ait aucune confusion ni aucun amalgame. Mais force est de constater qu'il y a un islamisme radical qui conduit à nier les lois de la République, qui conduit à banaliser la violence et qui a conduit certains de nos citoyens, de nos enfants, à choisir le pire ou à considérer que le pire était devenu naturel.
Et dans le projet de loi sur les séparatismes qui sera présenté le 9 novembre en Conseil des ministres, il y aura pas mal de dispositions, à commencer par l'école, Vincent de Rosier. L'instruction à domicile va être très strictement limitée.
Absolument, l'enseignement devra avoir lieu dans les murs de l'école dès 3 ans. L'enseignement à domicile sera, lui, strictement limité aux enfants qui ont des impératifs de santé. Écoutez le chef de l'État.
Chaque semaine, des recteurs et des rectrices découvrent des cas d'enfants totalement hors système. Chaque mois, des préfets ferment des écoles, entre guillemets, car elles ne sont pas déclarées même comme telles, illégales, souvent administrées par des extrémistes religieux. Nous changeons donc de paradigme, et c'est une nécessité.
Alors le président a évoqué ses enfants déscolarisés, il a pointé du doigt ses parents qui menacent de retirer leurs enfants de l'école pour fuir les cours de musique ou les séances de piscine. Il a dénoncé aussi ses certificats médicaux bidons d'allergie au chlore. Emmanuel Macron a précisé qu'il ne voulait pas que des enfants de la République se retrouvent entre 8h et 15h dans des cours de prière. Enfin, les écoles hors contrat feront, elles, l'objet de contrôles renforcés.
Bon, service public aussi, formation des imams, financement. Là aussi, sur tous ces sujets-là, il promet du concret.
Oui, il a d'abord rappelé quelques principes, obligation de neutralité dans les services publics. On parle par exemple des salles de prière à la RATP. Emmanuel Macron veut étendre aussi cette obligation de neutralité aux salariés des entreprises délégataires du service public. Les associations pointées du doigt devront, elles, signer une charte de la laïcité si elles sollicitent des subventions publiques. En cas de dérive religieuse, elles seront dissoutes beaucoup plus facilement. En cas d'atteinte, par exemple, à la dignité de la personne ou en cas de pression psychologique, la loi sera donc renforcée en ce sens. Autre point évoqué par le chef de l'État, l'influence et les financements venus de l'étranger. Il n'y aura donc plus d'imams formés à l'étranger, mais le président n'a pas précisé de date aujourd'hui. Les financements venus de l'étranger, eux, ne seront pas interdits, mais Emmanuel Macron promet des contrôles drastiques. Enfin, le chef de l'État plaide pour plus de compréhension de l'islam et il y aura plus d'enseignement de l'arabe à l'école.
Vincent de Rosier en direct des Mureaux. Jean-Luc Mélenchon s'insurge sur Twitter. Macron absent du sommet européen, trop occupé par le discours contre les musulmans, déserteur, écrit-il. Il confie à Angela Merkel le soin de représenter la France. Fin de citation. Une pause et dans un instant, nous partons aux États-Unis. Donald Trump est positif au Covid.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Robière.
Donald Trump a le coronavirus. C'était l'information de la nuit. Un mois, presque jour pour jour, avant l'élection présidentielle américaine, c'est un nouveau coup de théâtre dans la campagne. Le président américain est contraint de suspendre sa campagne pendant quelques jours et de se mettre en quarantaine à la Maison Blanche avec son épouse, qui l'a contractée elle aussi. Mais Lionel Gendron, il va continuer à assumer ses fonctions ?
Oui, et ce matin, des élus républicains interviennent dans les matinales pour passer le même message. Il est toujours le chef de la Maison-Blanche, il est toujours le commandant en chef, même s'il va commander à distance, pas de grandes réunions physiques, téléphone et visioconférence de rigueur. Et puis, ses médecins vont bien sûr surveiller heure par heure son état de santé. En revanche, cela va bien sûr affecter sa campagne, alors que ses conseillers comptaient sur le dernier mois pour rattraper le retard sur Joe Biden. Mais tous ses déplacements sont annulés. Participera-t-il aussi, par exemple, au deuxième débat télévisé ? Il est dans 13 jours. Donc on sera à la limite de la quarantaine, ça risque d'être juste, en tout cas dans une forme classique. Donald Trump, 74 ans, ne montrait pas de signe de faiblesse hier, mais s'il devait avoir des symptômes sévères, il peut invoquer le 25e amendement. Le président informe alors la Chambre des représentants et le Sénat qu'il est en incapacité d'assumer ses fonctions. Le vice-président assure alors l'intérim.
À Lionel Gendron, direct de New York pour RTL, le patron de l'OMS, qu'il avait accusé d'incompétence dans la gestion de la pandémie, lui souhaite un prompt rétablissement, tout comme le Britannique Boris Johnson, qui est passé par là lui aussi. Vladimir Poutine estime que sa vitalité naturelle l'aidera à vaincre ce dangereux virus. Avec nous en studio, Jean-Claude Beaujour, avocat et vice-président du Cercle de réflexion France-Amérique. Bonjour.
Bonjour.
Quelle ironie du sort quand même pour Donald Trump. Il y a 4 ans, jour pour jour, pendant la précédente campagne présidentielle, il se moquait d'Hillary Clinton qui venait de contracter une pneumonie.
Écoutez, c'est une affaire avec lui-même. Ce qui est important dans cette histoire, c'est que le président sortant se voit réduit dans sa capacité à faire campagne, alors même, et ça c'est vrai pour toutes les campagnes, ce sont sur les dernières semaines, les 4-5 dernières semaines, où les candidats ajustent leurs déplacements, et on sait qu'il a besoin de remporter la Floride. Vous voyez qu'il a été obligé d'annuler son déplacement en Floride. Il avait prévu un certain nombre de déplacements dans d'autres États, les swing states. Alors sera-t-il ou pas empêché? On verra. Effectivement, il y a aussi le problème des deux autres débats. Même si les débats n'apportent pas, il n'y a pas un gros delta de voix. En revanche, le fait pour Donald Trump de ne pas être en mesure d'assurer la contradiction à Biden sur les deux derniers débats pourrait donner le sentiment qu'il est affaibli, et ça aurait un impact sur son électorat. C'est la plus grosse des conséquences pour lui, c'est sur la campagne immédiate, c'est pas sur sa capacité à assurer ses fonctions de responsabilité.
La campagne à distance, Joe Biden le fait déjà, c'est pas forcément un problème.
Oui, mais lorsqu'on a misé toute sa campagne sur la présence physique, rappelez-vous encore lors du débat avant-hier soir, il disait, mais moi je vais sur le terrain, je ne comprends pas pourquoi toi, en parlant à Biden, je ne comprends pas pourquoi tu restes terré à ne pas faire de ta campagne. Moi j'y vais, je suis en forme, et n'oubliez pas une chose, c'est que le président pour les Américains, votre correspondant à New York vient de le dire, doit être le commandant en chef. Oui. Le commandant en chef ne peut pas être affaibli, c'est le chef de l'armée, c'est celui qui fait la guerre en quelque sorte, et donc affaibli, ça donnerait une mauvaise image du président sortant.
Ça ne peut pas le rendre au final plus populaire s'il s'en sort très bien et sans dommage. Ça a été le cas pour Boris Johnson.
Écoutez, je ne suis pas certain qu'en l'espèce, je crois que les électorats, aussi bien des républicains que des démocrates, sont à peu près très compacts. En réalité, l'élection va se jouer sur la capacité qu'aura le candidat Biden à mobiliser une frange de l'électorat dans les différents swing states, à mobiliser son électorat. Je pense que Kamala Harris ira aussi, tentera de mobiliser plus fortement l'électorat féminin qui avait un peu, malgré tout, fait défaut à Hillary Clinton. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les démocrates font une campagne véritablement de terrain. Donc, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Mais en revanche, Biden a intérêt à mobiliser s'il veut l'emporter.
Ça peut mal tourner. Hein. Par exemple, Donald Trump, il a 74 ans, il est en surpoids, il fait partie des personnes à risque, il peut se retrouver en réanimation un jour.
Alors, on ne lui souhaite pas. Rien n'est prévu sur l'incapacité en tant que telle sur un candidat. Une chose qui est certaine, c'est que vous avez 3 dates. Il y a la date de l'élection le 4 novembre. Il y a la date aux alentours du 15 décembre pour la rencontre des grands électeurs. Ce que prévoit la Constitution américaine, en gros, parce que c'est très complexe, ce que prévoit la Constitution américaine, c'est que si un candidat est empêché à une date proche, par exemple, de l'élection, c'est le parti qui se réunit, le comité du parti qui se réunit pour pouvoir désigner le candidat en titre. Mais en aucun cas...
Mais on ne peut pas repousser l'élection ?
Oui, l'élection pourrait être repoussée par une loi du Sénat, pourrait être repoussée, ça fait partie des hypothèses, mais la première des hypothèses, c'est que le parti concerné se réunit et son comité national désigne, par un processus un petit peu complexe, mais désigne le candidat qui pourrait succéder au candidat empêché, je dirais tout simplement empêché.
Bon, mais on n'en est pas là, évidemment.
On n'en est pas là, mais pour moi, l'une des conséquences, quelle que soit, et on ne peut que souhaiter que le président se remette humainement, quelles que soient les conséquences, le risque avec cette situation, c'est qu'on voit bien que le Covid vient véritablement perturber la campagne, et on pourrait très bien voir le candidat battu, s'il est battu trop justement, avoir des procédures judiciaires en contestation de l'élection pour X ou Y raison, et puis deuxièmement, la partie américaine qui aura perdu pourrait avoir le sentiment qu'on lui a volé l'élection, donc on pourrait avoir une sorte de combat en illégitimité du candidat élu pour une Amérique qui est déjà divisée. Oui, ça poserait problème.
Et il y a un suspense supplémentaire, en tout cas, dans la dernière ligne droite. Merci beaucoup, merci Jean-Claude Beaujour d'avoir été l'invité d'RTL Midi. On fait une pause dans un instant. Face à la montée de l'épidémie, les restaurateurs et les gérants de salles de sport voient rouge.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Robière.
Limitez vos contacts avec vos amis, votre famille. C'est ce que recommande ce matin le Conseil scientifique pour ralentir la circulation du virus. Paris est en sursis et pourrait passer lundi en alerte maximale. Olivier Véran avait noté hier une dégradation de la situation dans 5 métropoles, Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse et Saint-Étienne. Ce matin, Santé publique France a fait son point hebdomadaire et elle s'inquiète pour les personnes âgées, Odile Pouget.
Oui, les chiffres ne sont pas bons pour cette population plus fragile, plus à risque de complications. Ainsi, pour les plus de 75 ans, le nombre de nouveaux cas hebdomadaires a été multiplié par 4 depuis la mi-août et par 3 pour les 65-74 ans. Autre inquiétude, la situation en Île-de-France, région à très forte densité évidemment, mais qui concentre à elle seule depuis la mi-septembre un tiers des hospitalisations enregistrées chaque semaine. Enfin, ce n'est pas anodin, dans le contexte actuel de circulation très active du virus, un tiers seulement des Français assurent éviter les regroupements, les fêtes de famille, toutes les situations où on se retrouve face à face, sans masque, ce qui signifie qu'une très grosse majorité ne respecte pas ces consignes de prévention.
Ça va être difficile à faire passer. Il y a quand même des raisons d'espérer.
Oui, parce que de nombreux gestes barrières sont en train de passer dans les mœurs. Ainsi, le port du masque en public est systématique pour 74% des Français. Le lavage des mains, les salutations avec le coude appliquées là aussi par 60 à 70% de la population. Et puis sur un autre front, il y a la stabilisation des chiffres à Marseille, à Nice, à Bordeaux concernant les hospitalisations et les entrées en réanimation, même si Santé publique France se refuse pour l'instant à parler d'embellie.
Merci Odile. Une alerte maximale pour Paris, ça signifierait une éventuelle fermeture des bars et des restaurants, un scénario qu'on redoute aussi à Bordeaux. À midi moins le quart, les restaurateurs était appelé par le chef Philippe Etchebest à porter un brassard noir et à faire du bruit. Ludovic Mallet a participé à ce concert de casseroles. Il est directeur de la Villa Tourny à Bordeaux.
On va vraiment tous devoir mourir, les petits comme les gros. Ça devient insupportable. On ne va plus y arriver. Si ça continue comme ça, on va vraiment tous devoir fermer. Donc il faut vraiment tous se soutenir, serrer les coudes et trouver d'autres solutions que les fermetures. Si on continue à garder les 1 mètre de distanciation et qu'on joue tous le jeu en se désinfectant bien les mains, les couverts, tout ça, eh ben, on peut continuer à travailler. Faites plus de contrôles à la limite. La police, je ne sais pas quoi mettre en place, mais faites des contrôles. On fait attention à ce que tous nos clients, nos serveurs portent le masque. On change les masques 2 à 3 fois par jour selon les actions. Parce que la désinfection de tout le matériel qu'on se sert tout le temps, les cendriers, les pots de fleurs, les cartes, les chaises, les tables, c'est énormément de boulot. Mais on tient à le faire aussi parce que c'est normal. Moi, je l'ai encore vu hier soir, les gens ne comprennent pas non plus. Ils pensent qu'on doit tous fermer à 22h. Franchement, ça va nous tuer.
Ludovic Mallet au micro RTL de Philippe de Maria. Quant aux salles de sport, elles sont toujours fermées à Lille, Bordeaux, Marseille, Nice ou encore Paris. Et dans la capitale, les gérants manifestent en ce moment devant la tour Montparnasse, Arnaud Touche.
Oui, dans nos salles, un seul virus, celui du sport, peut-on lire sur les banderoles brandies par les patrons de salles et coachs arrivés de toute la France. Christophe Martéu, PDG de Magic Form, est venu dire son incompréhension.
Alors, en ce moment, 33 clubs exactement fermés.
Pour lui, cette nouvelle fermeture ne passe clairement pas.
Nous, en ce qui concerne notre activité, c'est simple, on a des espaces qui sont assez grands. On a pu mettre en pratique les mesures. Un appareil sur deux, 4 mètres carrés par personne. Les salles de cours sont bien découpées de manière à ce que les gens aient leur sensation.
Et derrière les banderoles en jogging, c'est toute la filière du sport qui s'est réunie. Marc Paoli dirige Climb Up et 35 de ses clubs d'escalade sont fermés en ce moment.
Nos salles, on peut grimper jusqu'à 15 mètres de haut. Donc on a énormément de volume, on a mis en place toutes les procédures par rapport à la distanciation. Enfin, on a été très très rigoureux. On comprend bien qu'il faut effectivement faire attention à la propagation du virus, mais ça nous semble complètement, excusez-moi le terme, mais à côté de la plaque, quoi.
Et par ailleurs, une délégation de professionnels sera reçue cet après-midi au ministère de la Santé.
Arnaud Touche devant la tour Montparnasse en direct. Un mot de football, il y aura un France-Finlande amical le 11 novembre au Stade de France. La rencontre servira à préparer les matchs de Ligue des Nations des Bleus contre le Portugal et la Suède qui auront lieu quelques jours après. Et on retrouve Pascal Pro avec qui vous allez dialoguer dans un peu moins de 5 minutes.
Et évidemment, RTL. L'essentiel de notre émission sera consacré au séparatisme et au discours d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez été convaincu par ces mesures qu'il a annoncées? Quel avenir pour les territoires oubliés de la République? La politique d'intégration est-elle un échec? C'est une question que nous posons. Et manifestement, les gens trouvent majoritairement cette politique est un échec. Nous en parlerons.
À tout de suite, merci. La météo, Peggy Broche, la tempête Alex n'a pas fini de tourner sur elle-même.
Et oui, alors après une petite accalmie, ça repart avec des vents sur la Bretagne qui sont beaucoup moins forts que cette nuit, c'est vrai, mais ça souffle encore bien fort, entre 80 et 110 km/h sur la pointe bretonne. Et surtout, il y a beaucoup de pluie, des pluies bien soutenues. Du coup, les Côtes d'Armor et le Finistère sont en vigilance orange pluie inondation. Il faut rajouter la vigilance orange pour vent fort sur le Finistère. Sinon, le gros de la dépression se décale vers la moitié est, entre les Hauts-de-France et les Pyrénées. Sur le sud-est, là, la situation est vraiment à surveiller puisque les Alpes-Maritimes sont en vigilance rouge pour inondation et vigilance orange pour orage, crue et vague submersion. Et puis, on a 11 départements qui sont en vigilance orange pour pluie, inondation et ou orage. Et les Alpes de Haute-Provence cumulent les 3 vigilances orange, pluie, orage et crue. Le tout avec du vent, évidemment, entre 70 et 90 km/h, de la neige en montagne dès 1400 mètres. Et puis, c'est également très instable sur la Corse. Et le temps est un peu plus calme sur l'ouest, entre la Normandie, le centre, en descendant vers l'Aquitaine, mais ce n'est pas du beau temps non plus, on a encore des averses, et sur le littoral aquitain, là le vent se renforce et ça devient orageux, tout ça sous des températures qui sont en baisse, mais bon, c'est pas ce qui ouais, est significatif.
Tempête, hein,
exactement.
Pas froid en même temps,
oui. Exactement.
On limite la casse, hein, on peut pas tout avoir.
Exactement, vous avez
merci
tout compris.
Peggy. Il est 12h58 très exactement sur RTL, donc quelques secondes, le rappel des titres, et ensuite vous avez la parole au 30-10.
RTL Midi. RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Comment lutter contre le séparatisme? Ce sera quasiment notre sujet unique jusqu'à 14h30 sans doute. Eric, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Pro.
Comment lutter?
Ben écoutez, comment lutter? Je pense que ça va être un long travail. J'ose espérer que le président en promenade aujourd'hui, si je puis dire, ou en déplacement, ne fera pas quelques mesurettes, parce que je pense sincèrement qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail.
Eh ben, on va en parler ensemble après le rappel des titres de Christelle.
On parle de ce sujet-là. Emmanuel Macron veut en finir avec les séparatismes. Il y a un islamisme radical qui conduit à nier les valeurs de la République, a reconnu le président. Il souhaite limiter strictement l'instruction à la maison, mettre fin à la formation des imams à l'étranger, et toute association sollicitant une subvention publique devra signer une charte de la laïcité. Un projet de loi sera déposé le 9 décembre. Les restaurateurs sommet de renforcer leur protocole sanitaire s'ils veulent avoir une chance de rester ouvert dans les zones en alerte maximale. Leurs représentants marseillais sont actuellement en visioconférence avec le ministre de la Santé, Olivier Véran. Un nouveau dispositif anti-squatteur adopté par les députés. La notion de domicile ne concerne plus seulement la résidence principale. Une fois le squat découvert et la police alertée, le propriétaire saisira le préfet qui aura 48 heures pour mettre en demeure le ou les squatteurs de quitter les lieux, ce qui permet d'éviter d'attendre une décision de justice. À Roland Garros aujourd'hui, les deux rescapés français, d'abord Caroline Garcia contre la Belge Martins, puis Hugo Gaston qui va devoir chercher l'exploit face à Wawrinka, tête de série numéro 16. Bonjour Mourad Djabari.
Bonjour, exactement, le Toulousain de 20 ans qui vit un rêve éveillé. Il se souvient de Stan Wawrinka lorsqu'il a gagné ici à Roland. C'était en 2015. Hugo Gaston était dans son canapé. Il avait tout juste 15 ans. C'était encore un adolescent. Aujourd'hui, la marche sera un peu haute pour le Français d'1m73, l'un des plus petits du circuit. 239e mondial invité par la fédération pour jouer son premier Roland Garros. Il va avoir face à lui le Suisse et ses trois grands chelems, très en forme. Il va falloir jouer entre les gouttes aussi. Les conditions de jeu sont très compliquées aujourd'hui. De l'humidité, de la pluie, et le match va se jouer sur le Langlaine où il n'y a pas de toit. Mais pour le moment, ça joue sur tous les courts. Chez les dames, Caroline Garcia va prendre la suite de ce match sur le court central, cette fois-ci couvert. Elle sera aux prises de la Belge Elise Mertens, tête de série numéro 16.
Un prochain point, 13h30. Merci Morad.
Jusqu'à 14h.